Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Louis.
Pépite, un podcast culturel co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème.
Verre d'eau ?
Mais oui, bien sûr.
Moyen ?
Juste un verre d'eau, tu veux un thé ?
Non, verre d'eau, c'est bien. C'est parfait.
Parfait.
Je retrouve Nadia Tereskevitch au bar d'un hôtel très calme. Ses yeux cherchent son chemin, mais son pas est décidé. Elle incarne en ce moment une femme à barbe dans le film Rosalie de Stéphanie Di Giusto. Une héroïne qui pourrait rappeler la figure de Clémentine Delay, la plus illustre des femmes à barbe, qui accepta fièrement sa pilosité, transformant ce stigmate en force. Mais dans le film Rosalie, elle est une amoureuse passionnée. D'ailleurs, la passion, c'est ce qui résume le parcours de Nadia Tereskevitch. La passion, possession pour la danse, qu'elle commence à 4 ans, celle des grands textes, comme la langue du romancier israélien Aaron Appelfeld, et enfin la passion du jeu, qui lui vaut, en 2023, le César du meilleur espoir féminin pour le film Les Amandiers de Valeria Boni Tedeschi. Avec Nadia Tereskevitch, on a parlé de sa langue maternelle, le finnois, et de ses origines polonaises, de la première fois qu'elle a vu son père pleurer devant une chorégraphie de Pina Bausch, de ses allées et venues entre différentes disciplines artistiques, et du plaisir d'avoir peut-être enfin trouvé sa voix. Nadia Tereskevitch, celle qui cherchait sa place, ça commence. Je suis Sébastien Thème, bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
Je me sens très finlandaise alors que j'ai jamais vécu en Finlande, mais c'est lié à la petite enfance, c'est lié nos langues maternelles, nos origines, de comprendre pourquoi je me sens pas du tout polonaise. Enfin voilà, j'essaie de comprendre où est-ce qu'on est chez soi et ouais, c'est assez intéressant.
Le finnois, une langue que tu parles ?
C'est ma langue maternelle, oui. Ouais. Je le parle, mais plus que ça, c'est ma langue émotionnelle, quoi. C'est que même dans Rosalie, je dois prier. Un moment, j'ai prié en finnois et on a fait de la post-synchro, quoi. C'est ma langue, c'est ma langue maternelle, en fait. Mais vraiment, dans le sens, j'y suis profondément attachée, quoi. Ouais, mais je suis vraiment profondément bilingue. C'est que c'est vraiment un bilinguisme. Par exemple, si je dois pleurer, je pense en finnois. C'est ma langue qui me ramène à mes sentiments et à mes émotions. Enfin, voilà, c'est et c'est ma langue aussi de l'imaginaire. C'est-à-dire que je pense en finnois et en français de la même manière, quoi.
Tu dis « je me sens pas du tout polonaise ».
Non. Non, mais en fait, c'est parce que comme mon père m'a élevée en français et que c'est mes grands-parents qui sont polonais, donc j'ai des choses qui me touchent, évidemment, parce que... En fait, c'est ce que je voulais dire par rapport aux racines, c'est que j'ai quand même des origines polonaises et que je me sens pas proche de ce pays. Je cite toujours Aaron Appelfeld, que j'adore tant. Et en fait, ça a été un vrai choc pour moi. Histoire d'une vie, c'est un livre qui m'a fait comprendre tellement de choses. C'est mon livre de chevet, vraiment. sur l'identité, sur déjà bon, c'est magnifique, c'est une écriture existentielle, quoi, c'est une écriture du silence, enfin je sais pas, c'est extraordinaire, mais aussi parce qu'il parle vraiment de des origines, de où on vient, comment on s'approprie une langue et comment on peut prendre une langue et se la dire sienne, quoi. Enfin, tout ça pour dire que du coup, la Pologne, je suis liée par la musique, parce que j'écoutais énormément, évidemment, de musique classique, essentiellement polonaise, enfin Chopin. Et puis après, c'était plus, il y a quelques films, évidemment, qui me ramènent à un endroit, mais là, par exemple, j'ai doublé un film qui s'appelle La jeune fille et les paysans. C'est un livre hyper connu en Pologne, mon père m'en a beaucoup parlé, et donc j'étais contente, en fait, de quelque part me connecter à cette culture, de découvrir ce roman, qui est vraiment un fondateur dans la littérature, dans la prose polonaise, enfin européenne même d'ailleurs. Mais... Enfin, je suis heureuse aujourd'hui de m'y mettre, mais en fait, je crois que c'est aussi la barrière de la langue. Parce qu'en fait, je me rends compte à quel point, quand j'arrive dans un pays, j'apprends tout de suite la langue. Je n'arrive pas à rester dans un pays où je comprends pas. Et du coup, comme je ne parle pas polonais, je pense que ça m'a mis beaucoup de barrières, parce que je trouve qu'on ne peut pas comprendre un pays sans comprendre la langue. Ça dit tellement la langue sur la culture, sur comment les gens voient le monde, rien que la grammaire parle sur les gens. Enfin, c'est fou.
C'est une chance de pouvoir jouer Clémentine Delay, enfin, en tout cas, ouais. Cette femme à barbe, mais qui est cette femme à barbe, tiens?
C'est une jeune femme. J'aime bien le fait de me dire qu'en fait, la barbe n'est même plus le sujet, quoi. Que c'est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui va s'épanouir en tant que femme et se découvrir en tant que femme, découvrir sa féminité et connaître qu'une histoire d'amour. Je trouve que c'est vraiment une grande histoire d'amour. Stéphanie Di Giusto, la réalisatrice, elle s'est inspirée de Clémentine Delay, mais en fait, on n'avait qu'une photo avec nous. La seule chose qu'elles avaient en commun avec Rosalie, c'est qu'elle tenait un café. Et que c'était fin 19e. Clémentine Delay, par exemple, dans ses mémoires, elle parle même pas de son mari, alors que là, on pourrait appeler le film Rosalie et Abel.
Elle et Abel, c'est aussi deux espèces de monstres, enfin, en tout cas pour les gens autour. Enfin, finalement, on s'aperçoit que les monstres, c'est pas forcément ceux qui ont l'air de monstres. Est-ce que cette question-là, de la monstruosité, c'est quelque chose qui t'intéresse ?
C'est toujours intéressant de voir les projections qu'on peut avoir sur les femmes. Je sais qu'à chaque fois, je me suis fait la réflexion d'avoir la chance d'incarner des personnages, en fait, qui s'opposent aux projections que les autres ont sur eux, en fait.
Qu'est-ce qu'on projette sur une actrice et sur toi ? Est-ce qu'on a projeté des choses sur toi ? Est-ce que tu sens qu'on projette des choses sur toi ?
Moi, j'ai eu quand même l'impression, là, qu'on propose des rôles tellement différents et qui questionnent et qui déstabilisent aussi ma propre féminité, enfin, qui me questionnent, qui me travaillent. J'ai pas l'impression d'être dans une case, quoi. J'ai l'impression, justement, que les gens, ils ont plutôt d'imagination, quoi. Mais après, bien sûr, il y a le stéréotype, enfin, une comédienne. En fait, je sais pas, je pense que les choses, elles changent, là, quand même. On est dans une époque où une génération, où les choses changent, et où les femmes, je pense, peuvent accéder à des rôles beaucoup plus complexes et intéressants.
Est-ce qu'on peut remonter un peu le temps ? Est-ce que tu veux nous raconter ton enfance qui a, il y a du mouvement, enfin en tout cas géographiquement ça bouge un peu.
Je vivais dans le sud de la France avec mon frère et ma sœur. J'ai grandi au bord de la mer, j'ai beaucoup nagé dans la mer. Je nage énormément. J'ai des souvenirs quand même de soleil et de mer et de beaucoup de voyages. Ma mère était traductrice et prof de pilates nordique à côté. Enfin là, elle est toujours, hein. Mais j'ai plus un souvenir enfant qu'elle faisait beaucoup de traductions. Et mon père était directeur marketing, était dans le numérique, mais c'est quelqu'un qui est passionné par le cinéma, par la musique, qui m'a montré beaucoup de films, mais j'étais pas cinéphile du tout. Enfin, c'est pas né à ce moment-là. J'ai fait une école de danse, en fait, de mes 4 à 18 ans, qui s'appelle Rosella Hightower, et c'est un campus international qui est dans le sud de la France, mais qui m'a permis de voyager de mes 11 à 18, vraiment beaucoup, en fait, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Vraiment, j'ai beaucoup voyagé. Et ça m'a permis, je pense, d'avoir pas mal de caractère, en fait. Au départ, c'était purement... ma mère m'a mis à la danse une fois par semaine, et à 4 ans, c'était ça. Hein. C'était à 11 ans qu'il fallait choisir un danse-étude qui était toute la journée du matin au soir sur le campus. fallait faire un choix, quoi. Et c'est vrai que là, c'était devenu une évidence parce que c'était complètement ma raison de vivre, en fait. C'était mon identité. On était la danseuse. Et je me voyais pas faire autre chose. Et c'est assez étonnant, en fait, avec un peu de recul, de voir à quel point j'ai grandi en m'identifiant aussi à tous les codes de la danse classique et que c'était ça qui représentait la réussite pour moi. Et devenir femme était pour moi une sorte d'échec, quoi, parce qu'il fallait pas... En fait, la danse classique, c'est aussi compliqué, je trouve. Ça va pas forcément avec le fait de devenir femme, avec tout ce que ça comporte, quoi. Et donc, le corps bloque beaucoup de choses.
La danse classique, c'est aussi une forme de contrôle, peut-être, c'est-à-dire essayer de garder aussi une tenue. Il y a une espèce de rigidité, c'est ça ?
C'est pas forcément la rigidité, parce que l'idée, c'est d'amener à une danse très libre. Et on doit avoir une grande grâce. Les grandes danseuses sont tout sauf rigides, quelque part. Mais non, c'est plutôt c'est un contrôle extrême, parce que je pense que c'est la discipline la plus difficile, parce que ça mêle le sport de haut niveau et l'art au plus haut. Et ça demande en fait un tel contrôle qu'on peut s'abandonner, mais un contrôle, une perfection qui, moi, me bouleverse et que j'aime tant. Et toutes mes meilleures amies sont à l'Opéra de Paris. J'aime tant la danse classique aujourd'hui, mais en tout cas, c'était pas fait pour moi. Parce que ce que je disais par rapport au contrôle, c'est que ça, il y a des codes qui ne vont pas avec le fait de devenir femme. Je parle même physiquement. On demande un corps très androgyne. En fait, le fait de devenir femme ne va pas avec ça. Donc, le corps bloque beaucoup de choses pour rester dans ces codes-là. Donc, en fait, ça devient... en tout cas, moi, j'étais très bloquée. Et j'ai fait mon adolescence à 18 ans, quoi. Voilà.
Ah, le corps s'est transformé. Le corps a débloqué, ça.
Ouais, c'est le mental qui se débloque. Ouais, c'est le mental, c'est tout ça. Et en fait, je suis très heureuse aussi d'être passée par là. Pour moi, c'était la meilleure scolarité parce que ça m'a aussi chargée émotionnellement. Ça, j'ai quand même écouté de la musique classique pendant 15 ans. Tous les jours, j'ai vu beaucoup de ballets et j'ai été accompagnée artistiquement. Je me souviens, Pina Bausch, c'est vraiment ma plus grande inspiration. C'est ça que j'ai vu à l'âge de 4 ans, mon père m'avait emmenée, je comprenais rien. Et puis après, à 8 ans, 10 ans, 12 ans. Et en fait, l'œuvre de Pina m'a vraiment dévastée, quoi. Ça m'a vraiment, j'avais vu mon père en larmes, première fois de ma vie. Ça m'a marqué, ça aussi, je le dis, parce que c'est des souvenirs de voir mon père ému, j'avais jamais vu. Et plus tard, j'ai compris que pour moi, c'est la plus belle œuvre qui existe au monde. Pour moi, y a pas plus beau que Café Müller, sur ce que ça dit, sur la condition humaine, quoi. Enfin, voilà, c'est magnifique. Il y avait des œuvres comme ça avec lesquelles j'ai grandi et qui m'ont permis en fait de me forger aussi un accès aux sentiments, quoi, enfin d'être assez émotionnelle.
Qu'est-ce qui reste de la danse alors aujourd'hui dans ta vie, dans ton travail de comédienne?
Je fais de la danse contemporaine. Je fais de la danse Gaga. C'est une danse d'un chorégraphe israélien. Voilà, j'en ai fait quand j'ai fait Possession en Israël. Je suis restée un mois. Puis après, je fais des stages. J'étais à Berlin l'année dernière, ou en Italie, ou Amsterdam. Voilà, je suis un peu où sont les masterclass. Mais je le fais purement pour me nourrir par rapport au jeu et par rapport à trouver d'autres accès, en fait, parce que je trouve que c'est génial d'avoir, je trouve, un rapport instinctif au corps quand on travaille un rôle. Je trouve que c'est très physique, un rôle. Je veux dire, on dit des choses parfois et le corps dit autre chose, quoi. Enfin, la posture parle énormément, ce que c'est d'être une femme en fonction des époques, le rapport aux autres, le rapport à l'espace, l'accès aux émotions, parce que c'est ça que j'ai réalisé aussi, parce que je séparais énormément le jeu avec les mots, mon amour pour les mots, et la danse, le corps. Et en fait, c'est vrai qu'avec le temps, on réalise que quand on s'énerve, en fait, c'est génial de plus avoir de mots, parce que le corps, c'est en fait d'être viscéral, enfin des trucs voilà, que ça vient du ventre, quoi. J'ai jamais été aussi heureuse que ces dernières années. Enfin, je pourrais pas dire le contraire, ça serait fou. Mais parce que ça me convient à moi. Enfin, dans le sens, déjà, j'aime tellement jouer, mais je repars dessus tout, en fait. J'aime tellement jouer. Enfin, ça me rend tellement heureuse. Mais le jeu qui comprend le fait de voyager dans une époque, ça veut dire de se renseigner pendant 3 mois sur l'époque, d'apprendre une langue, de voyager, de rencontrer des gens incroyables. J'ai rencontré des gens qui ont changé ma vie, quoi. Enfin, vraiment. Mine de rien, il y a beaucoup de choses qui se passent entre 21 ans et 27 ans. Parce que c'est quand même là où on devient femme. J'ai grandi avec des rôles aussi, parce que c'est des rôles où, comme on donne pas tout, mais on donne quelque chose quand même quand on joue. j'ai essayé de chercher des choses, enfin en tout cas ramener des personnages à moi et essayer de comprendre des choses chez moi. Du coup, on découvre des choses aussi. Il y a plein de choses, par exemple dans Babysitter, je me disais c'est génial parce que c'est un rôle où ce personnage ne se sexualise pas alors que tout le monde la sexualise. Mais à un moment donné, j'avais une tenue, je me disais mais je peux pas la mettre. Et moi, elle me disait mais pourquoi tu peux pas la mettre ? Je me disais mais oui, c'est vrai, pourquoi je peux pas la mettre ? Et pourquoi je suis mal à l'aise ? Pourquoi j'ai l'impression de pas être bien dans mon corps alors que je dois jouer quelqu'un qui est tellement à l'aise, qui est tellement au-delà de tous les codes, justement qu'on joue avec les stéréotypes d'une blonde qui sort d'un cerveau masculin, enfin mis comme ça et qui représente je sais pas quoi. Là, justement, de décoder, enfin enlever un peu les codes et briser certains codes, ça m'a vachement libérée en fait de jouer ce personnage. J'ai adoré. J'ai essayé de garder un peu de cette de ce petit je m'en foutisme quoi et de garder ça. Puis vice versa chez Rosalie, c'est un personnage qui est mal dans sa peau mais qui en même temps a un besoin viscéral de vivre sa vie comme elle le souhaite et de devenir femme. Et du coup, à un moment donné, ça va prendre le dessus parce qu'elle va comprendre que sa féminité, c'est avoir une barbe et c'est comme ça qu'elle va se trouver. Mais en fait, je sais pas si on se trouve à un moment, mais je pense qu'il y a des moments comme ça où on comprend. Chez Robin Campillo, je trouvais ça magnifique que ça soit un personnage qui soit évidemment dans les années 60 avec ses enfants, etc., mais qu'on sente qu'à tout moment, elle peut échapper, elle peut s'émanciper. Et cette possibilité-là d'émancipation, c'était génial parce que Robin nous a montré vraiment comment essayer de travailler des rapports souterrains, quoi, que tout est sous-entendu, mais d'aspirer à une forme d'émancipation. Enfin, tous les personnages, j'ai l'impression, avaient ce besoin-là de liberté, quoi.
T'as quasi remplacé le mot émancipation par disparition, et t'as clos par liberté. Et au fond, est-ce que c'est ça, peut-être s'émanciper, c'est aussi disparaître d'une certaine manière.
En fait, parce qu'on est tellement dans une société normée, avec tellement d'injonctions, tellement de codes, il y a tellement de parasites de partout, que en fait, on m'a demandé hier si j'étais libre. Enfin, c'est difficile comme question, mais évidemment que je suis libre. Enfin, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qui pèse sur le cœur et sur le moral en ce moment, c'est un peu difficile de dire que là, aujourd'hui, là où je suis pas libre. Je pense que je pourrais jamais le dire, quoi. Mais en tout cas, il y a plein de manières à petite échelle de travailler une liberté, dans mon cas, une liberté féminine, quoi.
Vous venez d'écouter Pépite, un podcast de Louis Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. J'ai tourné cet épisode, il a été monté par Louise Tavera et réalisé par le studio La Fugitive, avec une musique originale composée par Michael Lio. À très bientôt dans Pépite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.